Chapitre 7. Alors, Bourassol, ces convocations bidons, vous êtes sur une piste ? Le brigadier-chef était assis dans mon bureau. Visiblement, il n'en menait pas large. Il commença par bafouiller. Non, enfin, peut-être les services de Prodis au Capitole ont l'air d'avoir du nouveau. Ce seul nom me fit sursauter. Que ce soit bien clair, Bourassol, je ne veux rien devoir à Prodis. Vous savez bien qu'avec des types de ce genre, il faut rendre au centuple. Ils se prennent pour Dieu le Père. C'est vous qui êtes chargé de débusquer ces plaisantins, personne d'autre. Nous étions les seuls visés dans cette affaire, pas la mairie. Pour moi, il s'agit d'un problème intérieur. Et qu'est-ce qu'il raconte ? Bourassol s'éclaircit la voix avant de répondre. Au cours des cantonales, en 81, une affiche du meilleur, enfin une falsification, avait été placardée dans toute la ville. Elle représentait le candidat officiel, pratiquement nu sur une plage, dans les bras d'une jeune femme. 3 mois plus tôt, il avait eu un pépin en voiture. Il orientait une partie de sa campagne sur le thème de l'insécurité. Des réunions en béquille. Vous voyez le tableau. Le titre du faux jouait là-dessus. Son accident de voiture, la vengeance d'un mari jaloux. Il a déposé une plainte contre X sans résultat, comme d'habitude. La semaine dernière, au cours de travaux d'agrandissement des locaux de l'imprimerie municipale, les ouvriers d'une entreprise de maçonnerie sont tombés sur les plaques offset qui ont servi à l'impression des affichettes. On a interrogé les employés du service. L'un d'eux a avoué qu'il participait aux activités d'un groupe situationniste installé à Toulouse depuis 1976. Il a parlé des convocations pour le fichier antiterroriste ? Non, il a reconnu l'ensemble des opérations menées de 1977 jusqu'en 1982. Selon lui, le collectif a ensuite éclaté à la suite de divergences idéologiques. Il est possible que certains membres du groupe aient continué leur travail de sape en solitaire, mais dans des conditions plus difficiles puisqu'ils ne disposaient plus de la logistique. Le nerf de la guerre, c'était l'impression des tracts, des affiches et la reproduction de papiers officiels. Sans l'appui du type de l'imprimerie municipale, ils ont dû se rabattre sur un imprimeur classique. Dans ce cas, ça ne sera pas trop compliqué de les coincer. On a pu identifier les autres membres du réseau. Bourassol déposa le papier qui triturait depuis le début de l'entretien sur le coin du bureau. Je pris la feuille dactylographiée et lus les noms à voix haute. Jacques Monoury, Claude Anchel, Jean-Pierre Bourassol. Je butai sur ce dernier nom et interrogeai le brigadier. « C'est un parent à vous ?» Il baissa la tête comme un gamin pris en faute et prononça faiblement. « Oui, inspecteur, c'est mon fils. » J'ai préparé ma lettre de démission. Je ne comprends pas du tout ce qui lui a pris. Il se renversa sur son fauteuil, éclata en sanglots. Je ne savais comment réagir face à cette situation totalement inédite pour moi. Je m'approchai de Bourassol et lui tapotai l'épaule comme je l'avais vu faire au cinéma. Nous n'en sommes pas là, brigadier. Ce que vous venez de faire est très courageux. J'apprécie votre geste à sa juste valeur. Il ne doit pas y avoir beaucoup de policiers de votre trempe qui soient prêts à sacrifier leur famille à leur idéal de justice et de vérité. Vous n'avez pas hésité à dénoncer votre propre fils. Que peut-on exiger de plus d'un fonctionnaire de police? Ce serait de la dernière injustice de vous conduire à la démission pour une faute que vous n'avez pas commise. Si on regarde les choses bien en face, ils n'ont pas fait grand mal. Je vais essayer d'arranger ça. » Bourassol avait cessé de pleurer. Il renifla très fort avant de passer la manche de son uniforme sous son nez. « Vous avez parlé de tout ça à votre fils. Il lui était relativement facile de se procurer les feuillets en tête du commissariat ainsi que les tampons. Personne n'aurait soupçonné le fils d'un collègue. » Il me répondit la voix cassée. « Bien sûr, j'y ai également pensé, mais c'est impossible. Mon fils se balade aux Antilles depuis 4 mois. Il fait son service dans la marine nationale. Pour le reste, je ne dis pas, mais pour cette histoire, il a une excuse solide. » La sonnerie du téléphone interrompit la suite des tristes aventures de la famille Bourassol. On m'avertissait qu'un hold-up était en cours dans une bijouterie de l'allée Jean Jaurès. Le commerçant avait réussi à actionner le signal d'alarme sans éveiller l'attention du braqueur. Il fallait opérer rapidement pour bénéficier du flagrant délit. Je vérifiais le fonctionnement de mon pistolet. Éclair, un modèle PS9 qui débloquait la sûreté placée sous la culasse. puis débloquer la sûreté placée sous la culasse. L'Ardenne m'attendait dans la cour, le moteur en marche. Je pris place à côté de lui. Il se tenait au courant des développements par la fréquence. Il mit la gomme sans que j'aie besoin de souligner l'urgence qui s'attachait à la situation. La voiture de ronde était en planque derrière l'église Notre-Dame des Grâces. Je leur transmis la consigne de ne pas bouger, de ne réagir qu'aux ordres donnés par l'Ardenne, à la radio. À partir de leur position, ils couvraient la façade de la bijouterie ainsi que les deux rues situées de chaque côté du commerce. Je descendis dans l'une de ces rues en contournant le quartier. Je fis stopper la voiture juste avant l'angle de l'allée Jean Jaurès. Je quittai l'Ardenne et me dirigeai vers la boutique en affectant l'air dégagé d'un promeneur. J'avais du mal à composer le rôle. C'est dans des moments pareils qu'on regrette que la formation de flic ne prévoit pas un ou deux stages d'expression corporelle. Je lançai de brefs coups d'œil aux alentours. Apparemment, personne ne faisait le guet sur le trottoir, à moins qu'un complice ne se soit embusqué dans une encoignure de porte. Dans ce cas, je faisais une cible parfaite. Parvenu à la hauteur de la bijouterie, je me jetai contre la porte vitrée. Je fis irruption dans la boutique en hurlant comme un frappé, le flingue braqué. « Police, lâchez vos armes !» Le bandit, un petit mec fébrile, habillé comme un employé de banque, moule marque et chaussures italiennes, opéra un demi-tour sur ses talons et dirigea un fort calibre sur ma poitrine. Il avait au moins aussi peur que moi. « Ne joue pas avec ça. Je t'aurais mis 3 balles dans la tête avant même que tu parviennes à armer ton flingue. » Mon pouce se déplaça imperceptiblement sur le flanc du pistolet. Il appuya doucement sur le minuscule levier situé à gauche derrière le pontet. La moindre pression sur la détente, une infime crispation de mon index serait maintenant suffisante pour déclencher le tir. Écoute-moi bien, dans un cas comme celui-là, ma parole vaut de l'or, bien plus que ce que tu peux rafler ici. Tu n'as aucune chance de t'en sortir, tu as perdu. Il y a deux bagnoles bourrées de flics sur l'avenue. Dans 5 minutes, toute la flicaille de Toulouse va répliquer comme à un congrès, sans compter la télé et sur la radio. Il ne bougeait pas et maintenait le bras tendu, la main tétanisée sur la crosse de son revolver. Je continue à parler. « Sois raisonnable. Pour le moment, tu risques une condamnation pour tentative de vol à main armée. C'est du sérieux, mais ça peut s'arranger si tu ne tires pas. Je serai appelé à témoigner au tribunal. La déposition d'un flic de terrain vaut son pesant d'années de tôle. » Si je leur raconte que tu t'es laissé faire sans opposer de résistance, tu gagnes 3 ou 4 ans. Tu es fait. Limite les dégâts, ça vaut mieux pour tout le monde. Mon discours ne semblait avoir aucun effet sur lui, ou bien j'avais mis à côté de la plaque. Je me décidai à brusquer les choses. Tu as le marché en main. Je te donne 30 secondes pour donner ta réponse et dire si ma proposition te va. Fais vite, 30 secondes, c'est vite passé. Mes yeux ne quittaient pas son flingue. Je compris que j'avais gagné la partie quand sa main se détendit et s'ouvrit. L'arme tomba sur le sol en faisant un bruit creux semblable à celui d'un jouet. Le bijoutier se précipita au pied de son agresseur et ramassa le revolver. Il le brandit en l'air en riant nerveusement. C'est du plastique, je ne l'aurais jamais cru. On peut dire que c'est drôlement impressionnant, ça fait le même effet qu'un vrai. Le braqueur profita de ces quelques secondes de flottement pour porter les mains à sa bouche. Il déglutit péniblement, à plusieurs reprises, avant de se jeter à terre, où il se mit à se tordre, en proie à de très violentes crampes. Je m'agenouillai pour l'observer de plus près. Il vient de s'empoisonner, appelez vite le SAMU, il va crever. Le bijoutier se mit à pâlir. « Mais non, inspecteur, ce salaud vient d'avaler mes diamants et mes perles. Il en a bouffé pour plus de 30 millions. C'est un dingue. » L'Ardenne entra dans la boutique, suivi d'une horde de policiers en uniforme, les calibres à l'air. Je l'arrêtai au passage. « Il faut le transporter à l'hôpital en urgence. Débrouille-toi. Il est blessé ? On n'a pas entendu de coup de feu. Ce n'est pas ça. Ce connard a bouffé le fonds de commerce. Il a le tube digestif le plus cher du monde. » L'ambulance nous conduisit à l'hôpital militaire près du pont Saint-Pierre. Le croqueur de diamants passa directement entre les mains de l'entérologue. Le toubib nous reçut après son examen. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Je dois vous confier que c'est la première fois que je traite un patient pour une indigestion de pierres précieuses. En temps ordinaire, on trouve des objets de moindre valeur, des clous, des morceaux de verre, des dents de fourchette. C'est absolument incroyable ce que les gens arrivent à avaler. Et je ne m'occupe que de ce qui se passe par la bouche. Les collègues qui travaillent sur les autres orifices naturels pourraient vous en raconter, les hommes comme les femmes. J'ai déjà pensé qu'on devrait rassembler tous les corps étrangers extraits depuis dix ans rien qu'à Toulouse et monter une sorte de musée pervers. Podiamant se taillerait un joli succès. Désolé, mais nous devons les récupérer. Ce sont des pièces à conviction. Ce sera long ? Le professeur tordit la bouche pour bien signifier qu'il réfléchissait. Elles sont de petit calibre. Pour le moment, elles cheminent en direction de l'estomac. Nous allons suivre leur progression à la radio ou avec l'échographe pour lui épargner de trop fortes doses de rayons X. Le bijoutier intervient à ce moment précis. J'espère que mes pierres ne risquent pas d'être abîmées par les rayons ou les sucs gastriques. Le professeur lui adressa une moue méprisante et choisit de l'ignorer. Au cours des prochaines heures, elles traverseront la seconde partie de l'appareil digestif et aborderont la phase du transit intestinal. C'est une étape délicate qui n'est pas exempte de risques. On ne peut écarter l'éventualité d'une occlusion intestinale et le recours à l'opération. C'est une intervention périlleuse, je ne vous le cache pas. Et si cela se déroule normalement ? C'est ce que je souhaite. Dans ce cas, vous devriez revoir les pierres dans 3 jours au maximum. Je vous le promettrai même pour demain, si j'étais sûre que notre malade accepte de collaborer avec nous. C'est-à-dire, nous avons encore une possibilité, lui administrer un laxatif puissant qui stimule très efficacement l'action intestinale. Bien entendu, nous ne pouvons ingurgiter de tels traitements sans l'accord du patient. Amnesty International ne nous le pardonnerait pas. La redoutable éventualité d'une intervention chirurgicale décida le braqueur à accepter l'ingestion des substances destinées à accélérer ses fonctions organiques. Je pris la précaution de placer un gardien en faction dans la chambre du coffre-fort ambulant et lui intimai l'ordre de vérifier le contenu des éjections du prisonnier. Le commerçant accepta avec reconnaissance la proposition que je lui fis de tenir compagnie au policier et de le seconder dans sa tâche. Les pierres et les perles furent restituées dès le lendemain grâce à une préparation purgative à base de magnésie calcinée dont l'entérologue avait méticuleusement affiné la formule CaO, MgO, 2CO2 afin d'éliminer tout risque d'effet secondaire. Un télégramme envoyé depuis Paris m'attendait à mon retour au bureau. Dalbois venait de retrouver la trace de l'exécuteur de Roger Thirault. Il m'avertissait de l'arrivée d'une lettre détaillée pour le soir même. Je tentais de m'intéresser à une pile de dossiers en suspens, sans beaucoup de conviction. Des séries de vols dans des pavillons, 2 ou 3 conduites en état d'ivresse, un refus d'obtempérer. Je tuais le temps en vérifiant les états de service du personnel du commissariat et le tableau d'avancement. Je constatais que Bourassol pouvait prétendre à l'échelon 4 de son grade, à moins que le commissaire Matabio ne lui tienne rigueur des frasques de sa descendance et ne le confine 2 années supplémentaires à l'échelon 3. Je sursautais à chaque sonnerie du téléphone, à chaque coup frappé à ma porte. Le facteur passait régulièrement à 5 heures pour sa tournée vespérale, mais j'aurais souhaité qu'il déroge à la tradition. Je me précipitais dans l'escalier dès que je l'aperçus qui franchissait le portail. Je récupérais l'ensemble du courrier que j'étalais sur le plateau de mon bureau. La missive de Dalbois était bien là. Je l'ouvris en déchirant l'enveloppe dans ma hâte. L'inspecteur des renseignements généraux ne s'embarrassait pas de formules inutiles. Cher Cadet, ton CRS se nomme Pierre Caz et appartenait en fait aux brigades spéciales chargées de liquider les responsables de l'OAS et du FLN durant les dernières années de la guerre. À tout hasard, je te signale que l'ensemble des faits relatifs à la guerre d'Algérie ont été couverts par un décret de juillet 62 qui stipule, entre autres choses, que nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice, de discrimination quelconque en raison d'actes commis à l'occasion des événements survenus en Algérie et en métropole avant la proclamation du cessez-le-feu. Pierre Caz est aujourd'hui à la retraite. Il habitait, il y a encore quelques mois, dans ta région, à Grisolles, un village situé entre Grenade et Verdun sur la départementale 17. Fais gaffe, ce n'est plus sur des œufs que tu marches, mais sur une poudrière. Sois gentil, détruis ce papier dès que tu l'auras lu. J'ai fait de même avec la photo que tu m'avais confiée. Amitié d'Albois. Je sortis un briquet de mon tiroir et brûlai la lettre dans le cendrier ainsi que l'enveloppe. Je confiai le reste du courrier à la secrétaire pour qu'elle procède à la distribution. Je me mis à la recherche de l'Ardenne. Je le retrouvai avachi sur le siège avant de la voiture de service. Il semblait être atteint d'une maladie nerveuse. Ses bras remuaient par saccades tandis qu'il piquait de la tête. De temps à autre, il se relevait pour plonger à nouveau vers le volant. J'eus l'explication de ce comportement parkinsonien en m'approchant de la portière. Le brigadier Lardenne avait définitivement abandonné les joies mathématiques du Rubik's Cube. Il s'adonnait maintenant aux délices vidéo-névrotiques du banzai. Il tenait entre ses mains une plaquette électronique de la taille d'une calculette et tentait de faire franchir un parcours cerné d'embûches à un petit personnage animé. Faites voir ça, Lardenne. Mettez le cap sur Isole. C'est un bled qui se trouve sur la 17, avant Montauban. Je le laissai jouer avec les bandes blanches, les stops, les priorités et tous les petits bonshommes qui circulaient en cette fin d'après-midi entre Toulouse et Montauban. Je dirigeais la fuite de petits ramoneurs, le pouce droit pour aller en avant, le pouce gauche pour reculer, et tentais de l'amener jusqu'à l'hélicoptère qui l'attendait en haut du building. Il devait grimper un nombre impressionnant de marches, passer une infinité de portes qui choisissaient de se fermer à son approche, le contraignant à des détours haletants. La concierge s'y mettait également et le poursuivait en le bombardant d'ustensiles de cuisine. Il lui fallait en plus se méfier des agissements d'un gigantesque rat qui ne trouvait rien de plus excitant à faire que de manger des étages entiers. En passant à travers le village de Verdun, je parvins à placer mon ramoneur sur la plateforme, mais au dernier moment, l'hélicoptère, déséquilibré par une fausse manœuvre de mon pouce droit, s'écrasa contre les fenêtres du 113e étage, tandis que la concierge Hilar en profitait pour planter un effroyable couteau de boucher dans le dos du ramoneur. Le rat se précipita pour engloutir le cadavre. Une petite musique aigrelette égrena les premières notes de la marche funèbre. Vous avez réussi un total de combien, inspecteur? Je pressai le bouton pour l'affichage du score. 939 marches. Mon record personnel est de 1515. C'est pas du gâteau. Je vais me payer le Yakun un de ces jours. Il paraît que c'est 10 fois plus passionnant. Le personnage doit affronter un ennemi dont il ignore l'apparence et qui lui envoie ses créatures. Vous ne savez jamais si celui qui est en face de vous est un ami ou un ennemi. Si vous éliminez vos aides, vous êtes d'autant moins protégé. Il faut venir à bout de 12 épreuves pour accéder au combat suprême avec le Yakun. En plus, le boîtier modifie les cas de figure après chaque partie. Ça se multiplie à l'infini. Il faut un minimum de 2 mois pour maîtriser le premier niveau. C'est un jeu fantastique. Vous avez repéré le panneau, Lardenne? Quel panneau, inspecteur? La route de Grisolles. Vous venez de la dépasser. Et là, vous ne disposez pas de 12 possibilités de rattrapage. Il n'y en a qu'une, faire demi-tour. Pierre Cazes habitait une petite maison de pays entourée d'un beau jardin entretenu avec beaucoup de soin. Je m'approchai de la barrière et agitai une clochette clouée au montant. Un homme d'une 60aine d'années, au visage marqué, apparut à la fenêtre du rez-de-chaussée. « Oui, que voulez-vous ? Je suis l'inspecteur Cadin de Toulouse. Voici le brigadier Lardenne, mon adjoint. Je désire vous parler en privé. » Il se montra sur le perron et actionna un mécanisme électrique commandant l'ouverture de la porte. Je remontai l'allée, Lardenne sur mes pas. Il nous accueillit à l'entrée. « Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite de la police ? Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Ma femme est sortie faire les courses au bourg, mais je peux tout de même vous offrir l'apéritif. » Nous étions dans une vaste pièce organisée autour d'une cheminée en pierre, meublée avec un goût très sûr. Tout en parlant, il posa plusieurs bouteilles sur la table, puis 2 verres et un assortiment de gâteaux salés. Il n'y a que 2 verres parce que je n'ai pas le droit de boire. Je me rattrape avec les médicaments. Il nous servit Ricard pour moi, Floc de Gascogne pour l'Ardenne qui aime bien les sucreries. Alors, inspecteur, vous enquêtez sur mon compte ou sur celui de ma femme? Non, pas exactement. Ça ne vous embêterait pas de faire quelques pas dans le jardin? J'ai envie de marcher. Pierre Case manifesta une certaine surprise, mais il accepta ma proposition. Je me décidai à aller droit au but. Voilà. En premier lieu, ma démarche n'a aucun caractère officiel. J'admettrai sans peine que vous refusiez de me répondre. Il me fit signe de continuer. Au cours de ce mois, un jeune garçon a été tué à Toulouse, Bernard Thirault. J'observais son visage, mais ses traits ne furent marqués d'aucune émotion particulière à l'énoncé du nom. Il a été assassiné en pleine rue, sans mobile apparent. Nous avons tout vérifié. Pas d'histoire d'argent, ni de mœurs, rien. Le mystère complet. Puis, en interrogeant la famille, je me suis aperçu que le père de ce jeune gars était décédé dans des circonstances tragiques et similaires il y a 20 ans. Exécuté dans la rue d'une balle dans la tête. À l'époque, on n'a mené aucune enquête sur ce meurtre. Par le plus grand des hasards, une équipe de la télévision belge venue filmer le tour de chant de Jacques Brel à l'Olympia a fixé les derniers moments de vie de Roger Thirault, le père de Bernard. Cela se passait à Paris en octobre 1961. Tout porte à croire que c'est vous qui teniez le pistolet. Pierre Case planta ses mains dans les poches de son bleu et serra les poings. Ses épaules fléchirent. Il ferma les yeux et aspira longuement, les lèvres entrouvertes. Puis il se courba. Il s'assit difficilement sur l'une des grosses pierres qui délimitaient le cheminement. « Comment avez-vous su ? Toutes les archives sont top secret. Le hasard, je vous dis. » « Allons, asseyez-vous, inspecteur. Vous remuez des souvenirs très douloureux. Je ne m'attendais pas à un coup pareil. Ah, on a beau prendre toutes les précautions, si c'est écrit, il n'y a rien à faire. Que voulez-vous que je vous dise? C'est sûrement moi. Pourquoi avez-vous tué Roger Thirault? Pendant une fraction de seconde, ses yeux se perdirent dans le vague. Je n'en sais fichtre rien. J'avais des ordres. Je me devais d'y obéir. Ça venait des brigades spéciales? Pourquoi me le demandez-vous si vous connaissez la réponse? Oui, de la direction des brigades spéciales. On était chargé de nettoyer les dirigeants les plus remuants de l'OAS et du FLN. La préfecture nous fournissait les laissez-passer et les armes, des séries non identifiables. En cas de pépin, nous possédions le numéro direct du directeur de la sûreté. Je l'ai encore en mémoire, mais il ne sert plus à rien. M.O. Gador 68.33. On apprenait tout par cœur, pas de traces. Ce n'était pas très drôle, on vivait en clandestin. En face, il ne se laissait pas faire sans réagir, œil pour œil. Ça ne ressemblait pas du tout au boulot que vous faites, inspecteur. On était autonome avec nos propres méthodes de renseignement et d'action. Même pour l'affaire de la rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle? Non, à intervalles réguliers, on était choisi par le centre pour abattre un pion gênant. Je préférais de loin le reste du boulot, la neutralisation de l'adversaire. Mais liquider un homme, ça ne m'a jamais procuré de satisfaction. Je ne dis pas pour d'autres. Vous savez, j'ai participé à la résistance à la libération dans l'Est. J'ai porté le fusil jusqu'en Indochine. J'ai été habitué à regarder le danger droit dans les yeux. Ce n'est pas particulièrement agréable de loger un chargeur dans le ventre d'un Allemand ou d'un Viet, même s'il s'apprêtait à vous faire subir le même sort. Mais foutre une balle dans la tête d'un jeune Français dont vous ignorez tout, lui désarmer dans le dos, il fallait le faire. Je me rassure en me disant que mon geste a peut-être permis d'éviter un attentat ou d'écourter la guerre d'une heure, d'un jour. Comment ça s'est passé exactement pour Roger Thirault? Qui vous l'a désigné? Comme d'habitude, un agent de liaison déposait un pli dans une boîte aux lettres relais que je visitais 2 fois par semaine. C'est là que je trouvais les instructions, la marche à suivre. Pour Thirault, si c'est comme ça qu'il s'appelait, on m'a fourni une photo de l'objectif et des renseignements sur ses déplacements, ses habitudes. J'ai choisi d'opérer pendant la manifestation. Il habitait près d'un des lieux de rassemblement. Logiquement, il devait rentrer avant le début du défilé. J'avais prévu de lui téléphoner sous un prétexte quelconque pour le faire descendre, mais je n'ai pas eu besoin de mettre ce plan à exécution. Il n'est pas rentré directement. Il s'est payé une séance de cinéma, en face du Rex. J'ai été à 2 doigts de faire le boulot dans la salle. À la réflexion, j'aurais dû. Ça m'aurait évité d'être filmé par une équipe de la télé belge. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi cet homme allait mourir de votre main? Parce que vous pensez que l'OAS avait des problèmes de conscience quand elle a fait sauter la gueule d'une douzaine de mes meilleurs copains en truffant leur salle de réunion de 30 kilos de plastique. On les a ramassés en morceaux dont le plus gros tenait dans ma main, justement. Ou lorsqu'ils ont balancé une grenade dans une cour d'école, j'ai vu des visages d'enfants ravagés par les bombes. Vous avez déjà entendu les cris de mômes de 5 ans rendus aveugles dans le seul but d'instaurer la terreur? En ce temps-là, j'évitais de me poser la moindre question pour ne pas devenir 10 fois plus enragé. Qui vous transmettait ces enveloppes? Vous pouvez me le dire? 20 ans se sont écoulés, ça fait partie de l'histoire. Ce n'est pas certain. Tout le monde sait que les brigades spéciales étaient chapeautées par André Vieillu et qu'elles étaient rattachées à la police officielle, sans apparaître toutefois sur l'organigramme des services. La meilleure preuve, c'est que mes années de clandestin sont comptabilisées dans mes points de retraite. Je peux même vous confier qu'elles comptent double. Mais il y avait aussi d'autres groupes, comme le SAC, qui agissait en dehors de toute hiérarchie, des commandos parallèles. On se marchait sur les pieds, tout en étant du même bord. Ne pensez pas que le temps a effacé les haines et les ressentiments. Ça ne me surprendrait pas, outre mesure, que les nostalgiques de l'OAS cherchent à venger une humiliation. Le FLN moins. Ce sont eux qui ont gagné et les vainqueurs sont toujours plus généreux que les vaincus. Votre chef, ce Vieillu, était probablement à l'origine de la décision visant à liquider Roger Thirault. Il était nécessairement au courant. Notre organisme de commandement reproduisait fidèlement notre type d'organisation en commando. Il se devait d'être le plus resserré possible pour se déterminer dans un temps record et avoir le plus de chances possible d'échapper au système de détection de l'adversaire. Vieillu avait au moins 3 adjoints, mais il pouvait agir seul en cas d'urgence. Que fait-il aujourd'hui? Bientôt comme moi, il n'est pas loin de la retraite. À la dissolution des brigades spéciales, il a obtenu un poste à la direction des affaires criminelles de la préfecture de Paris. Le gouvernement sait récompenser ses meilleurs serviteurs. Soudain, il se pencha vers le sol et m'invita à l'imiter. « Venez voir, inspecteur, une fourmilière. » J'ai beau la détruire 2 ou 3 fois par an, elle se reforme un peu plus loin. Vous avez déjà observé l'intérieur? Sûrement, quand j'étais plus jeune. C'est surprenant. Elles construisent des galeries, des rampes d'accès. J'ai lu qu'il y a plus de 2000 espèces d'insectes classées fourmis. Des fourmis rouges, noires, des fourmis à miel, des fourmis chasseresses, des fourmis amazones. En les regardant de près, on ne peut manquer d'en repérer une espèce qui correspond exactement à votre propre caractère. Il y a peu de temps, j'ai découvert quelle fourmi j'étais. Il prit une brindille et la pointa sur le bord d'un petit entonnoir large comme une pièce de 5 francs et à peine plus profond, creusé dans le sable. Le fourmilion, un solitaire. Il creuse son trou, s'installe au fond, en embuscade. Ensuite, il attend patiemment que des bestioles semblables à lui tombent à sa portée. La brindille fouetta le sol rageusement. Une avalanche de sable recouvrit le fourmilion. Je me relevai. Pierre Cazes me regardait d'un air narquois, immobile et silencieux. Je rompis le silence. « Je vous remercie d'avoir accepté de me parler, Monsieur Cazes. » Le brigadier Lardenne me rejoignit, la laine embaumant le pastis. Il avait 2 apéritifs dans le nez. Il effectua un demi-tour nerveux et s'engagea sur la route de Toulouse. J'eus le temps de voir l'intérieur du garage où trônait une grosse Mercedes vert métallisée, une 205 SE, des années 60, avec sa calandre chromée. Le rêve. Je me tournai vers Lardenne. « Quelle bagnole! Il y en a qui ont de la chance. » Faut pas croire, inspecteur. Sa femme est arrivée quand vous discutiez dans le jardin. Elle croyait qu'on était envoyé par l'hosto. Le petit vieux n'en a plus pour longtemps. Vous avez vu sa tête? Les toubibs lui donnent 3 ou 4 mois. Encore un qui ne profitera pas de sa retraite. On ne croirait pas. Il garde le moral pour quelqu'un qui se sait condamné. Il ignore la gravité de sa maladie. Ils lui font croire à un ulcère carabiné. Avant le virage, je me retournais sur mon siège. J'aperçus une vieille femme vêtue de gris qui se tenait à la porte du jardin. J'eus l'impression qu'elle notait le numéro de notre voiture. L'Ardenne braqua. Elle disparut du champ de la lunette arrière. Le mur situé face au commissariat résonnait depuis toujours des événements qui secouaient le monde. Lors de fréquentes périodes vouées à la réflexion, mon regard errait des minutes entières sur les pierres où je relisais de multiples fois les lettres blanches d'un « Libéré Henri Martin » ou les traces à demi effacées d'un slogan au référendum, sans être capable de trancher. Cette barre était-elle le final du « oui » ou la jambe ultime d'une haine de non. Quant à cet Henri Martin, je ne savais lequel choisir dans la cohorte des Martins homonymes du dictionnaire. Était-ce Henri Martin 1830-1883, né à Saint-Quentin, historien français, histoire de France 1833-1836, membre du Collège de France, ou Henri Martin, 1872-1934, né à Dunkerque, poète et symboliste français, Le Lys et le Papillon, 1902, prix de l'Académie française en 1927 pour son recueil Légumes et crustacés. Ou encore Henri Martin, 1912-1967, né à Saint-Denis, architecte français, rénovation de Paris, projet du boulevard périphérique, Percé Martin. J'hésitais jusqu'au jour où Bourassol, qui élargissait ses connaissances du milieu marin depuis que son fils naviguait à bord de l'escadre français, m'apprit que le Martin dont le mur retenait le nom avait connu l'humidité des cales et la rigueur des chaînes, pour s'être refusé d'envoyer les quelques centaines d'obus dont il avait la charge sur les quartiers populeux d'Haïphong au début des années 50. Mais le mur ne vivait pas qu'au passé. À la fin du mois de juin, une équipe de propagandistes de confession chiite avait tracé en lettres blanches une imposante inscription « Solidarité avec l'Iran ». D'autres peintures, en désaccord probable avec les thèmes khoméinistes, s'étaient contentées de rayer « Iran » et de le remplacer par « Palestine ». C'était sans compter sur la réaction des étudiants sionistes qui recouvrirent la Palestine et s'annexèrent le slogan en traçant en lettres bleues les caractères d'Israël. Un sage se manifesta en dernier lieu et mit tout le monde d'accord en masquant au rouleau les noms d'Iran, de Palestine et d'Israël. Pour faire bonne mesure, il badigeonna également la préposition « avec », ne laissant que le mot de solidarité. Le commissaire Matabio était de retour. Il fit irruption dans mon bureau sur le coup de 10 heures et ne me laissa pas le temps de lui adresser un bonjour amical. « Suivez-moi, Cadin. Je voudrais avoir des éclaircissements sur ce qui s'est passé ici durant mon absence. » Il était d'une humeur exécrable. Le bronzage corse dissimulait difficilement son teint bilieux. Il ne retint pas la porte en entrant dans son bureau. Je faillis la prendre en pleine figure. Matabio posa le bout de ses fesses sur le rebord du plateau et croisa ses bras sur sa poitrine. Il avait dû se lever en vitesse, car je remarquais qu'une de ses chaussettes était enfilée à l'envers. « Alors, Cadin, j'attends. » « Il n'est rien arrivé de vraiment exceptionnel, commissaire, si l'on accepte la grève des fossoyeurs. » Je cherchais à gagner du temps, à savoir si Caz était déjà intervenu pour se plaindre de ma visite. Enfin, cette grève n'a duré qu'une semaine et tout est rapidement rentré dans l'ordre. Quelques bagarres entre les grévistes et les familles en deuil. Sinon, le train-train habituel, les dépôts de plaintes en tout genre, je ne vous fais pas de dessin. Personnellement, j'ai consacré l'essentiel de mon temps à la plus grosse affaire du mois, le meurtre de Bernard Thirault. Il y a un dossier complet sur mes contacts, aussi bien à Paris qu'à Toulouse. C'est tout ? Il prononça sa question d'un ton excédé en agitant les bras. Oui, je ne vois rien d'autre d'important. Je ne vous parle pas du hold-up de l'allée Jean Jaurès. Il y a des placards entiers dans les journaux. J'avais fait cette allusion à bon escient. Les journalistes insistaient tous sur mon courage face à un gangster gangster armé. Il passait sous silence la nature du pistolet qui m'était opposé. La simple évocation de mon récent exploit eut pour effet de radoucir l'attitude du commissaire. Oui, Cadin, j'ai lu tous ces papiers. Je vous félicite pour le sang-froid dont vous avez su faire preuve dans ces circonstances. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est cette affaire de situationniste. À peine rentré de vacances, je suis assiégé de coups de fil du maire, de l'adjoint à l'information, Pradis. Méfiez-vous de cette pieuvre. Je n'ai rien compris à leur divagation, sinon que le brigadier Bourassol serait impliqué dans l'histoire. Je n'ai jamais rien entendu de plus grotesque. Vous imaginez Bourassol déguisé en situationniste? Vous êtes au courant de cette légende? Vous pouvez me dire d'où ça vient? Je dédouanais le brigadier chef. Bourassol n'y est pour rien. Ils inventent n'importe quoi pour nous emmerder. On a tout simplement mis la main sur le réseau de situationnistes qui est à l'origine des faux journaux municipaux depuis 1977, ainsi que de l'affiche truquée du meilleur. Le fils de Bourassol trempait dans la combine, mais il n'a rien à voir avec les fausses convocations envoyées depuis le commissariat. Il a un alibi en béton. Il se balade entre la Martinique et la Guadeloupe grâce aux croisières organisées par la Marine nationale. Le commissaire Matabio s'éjecta du dessus du bureau et vint se planter devant moi. Des fausses convocations, j'ai bien entendu. Vous ne trouvez pas que c'est plus important que tout le reste? Je me fous de votre meurtre et de votre fakir de bijouterie. Avant de partir en vacances, je me doutais que vous parviendriez à me foutre dans la merde. Alors, ces documents falsifiés, c'est quoi au juste? On cherche toujours. Plusieurs centaines de Toulousains ont reçu un papier imitant à la perfection un formulaire officiel leur enjoignant de se présenter d'urgence au commissariat pour la constitution du fichier antiterroriste. La convocation était signée de votre nom par un paraphe semblable au vôtre. Comme par hasard, les destinataires de ce courrier ont été choisis parmi les personnalités les plus en vue de la ville. Les gros commerçants, les industriels, le clergé, les présidents d'associations, principalement les groupements d'anciens combattants. Vous pouvez me montrer un de ces papiers ? Je tirai mon portefeuille hors de la poche arrière de mon jean et pris délicatement entre mes doigts un carré bleu que je dépliai avant de le remettre à Matabio. Il examina en silence, ligne par ligne. Cette étude lui fit retrouver son calme, à mon grand étonnement. Il me rendit la convocation. Ce n'est pas un faux. Ce formulaire est tout à fait authentique. Je l'ai signé la veille de mon départ pour la Corse. Je ne comprends pas comment cette salade a pu se produire. Je crois bien que s'il m'avait avoué être l'assassin de Bernard Thirault, ma surprise n'aurait pas été plus grande. Je ne suis pas encore fou, Cadin. Je me vois en train de remettre l'original de cette lettre au brigadier Lardenne, ainsi que la liste des 400 personnes concernées sur Toulouse. J'avais estimé que vous aviez déjà assez à faire avec toute la paperasse du commissariat pour ne pas vous coller cette corvée supplémentaire. Lardenne n'avait plus qu'à réaliser un jeu de photocopie et assurer la mise sous pli. Allez me le chercher. Je veux tirer ça au clair immédiatement. Le brigadier terminait une partie de flipper au café le plus proche. Je l'arrachais à sa table clignotante, 100 points avant la partie gratuite, au risque de m'en faire un ennemi. Je lui exposais la situation rapidement avant de retrouver le bureau de Matabio. Le commissaire s'était composé un masque tragique. Il releva le menton quand la porte s'ouvrit. Lardenne, vous me devez des éclaircissements. Tâchez de vous montrer convaincant si vous voulez éviter d'être muté à la guérite. L'inspecteur Cadin vous a mis au courant, j'imagine. Qu'avez-vous à déclarer pour vous justifier?
Je ne sais pas.
Eh bien, il s'agirait de faire marcher votre tête, Lardenne. J'ai apporté le travail à Madame Golan au secrétariat. Je lui ai expliqué ce que vous désiriez, dans les mêmes termes. Bravo, brigadier. Je vous confie une mission précise de la plus haute importance et vous vous empressez de la fourguer à la première venue. Allez me chercher Madame Golan. L'Ardenne s'absenta un court moment. Il réapparut accompagné de l'énorme matrone qui présidait depuis de longues années à la remise des cartes d'identité et des passeports. Elle occupait une part non négligeable de l'espace, mais elle essayait néanmoins de se faire la plus discrète possible. Elle franchissait à l'évidence le seuil sacro-saint du bureau du patron pour la seconde fois de sa carrière, après la prise de contact au moment de l'embauche. Son attitude montrait qu'elle appréciait à sa juste valeur la solennité de l'événement. Matadio fit preuve de beaucoup de délicatesse. Avec un minimum d'effort, il parvint à percer le mystère à jour. La pauvre femme était la bonté personnifiée. Sa réputation avait très vite franchi les limites du service des cartes d'identité. Il était rare qu'elle refuse de rendre un service à un collègue embarrassé. Il ne se passait pas de jour sans qu'on lui demande tel ou tel dépannage au moment du débordement présent, au nom du débordement présent, accompagné d'un « je vous rendrai l'appareil à l'occasion » de pure forme. La brave Madame Goland pliait, scotchait, encartait, agrafait pour le commissariat entier. Lorsque l'Ardenne parut auréolée de sa mission et qui lui demanda, au nom du commissaire Matadio, d'assurer l'envoi des 400 convocations pour le fichier antiterroriste, elle accepta sans hésiter, remerciant le brigadier d'avoir pensé à elle pour un travail aussi délicat. Elle fit de même le lendemain quand un autre chef de service la sollicita au sujet d'une mise sous pli suivie de l'expédition de 378 cartons ainsi libellés. Les œuvres sociales de la police toulousaine ainsi que l'ensemble des forces de police de l'agglomération vous remercient de vos dons généreux qui serviront, comme chaque année, à soulager la peine des veuves et des orphelins de nos collègues tombés dans leur lutte pour la sécurité publique. On ne sait comment la liste antiterroriste vient prendre la place du bordereau énumérant les noms des bienfaiteurs. Mais si le gratin toulousain se plaignit amèrement d'être assimilé aux ombres cosmopolites et menaçantes, aucun poseur de bombes, ou soupçonnait-elle, ne se manifesta pour s'étonner qu'on le remercie d'une aumône fantôme. L'Ardenne quitta le bureau le premier, la secrétaire sur les talons. Matadio traversait la pièce à grandes enjambées, empestant contre ses subordonnés et l'administration en général. « Vous vous rendez compte, Cadin, une heure de travail, et j'ai déjà perdu tout le bénéfice de mes vacances. Ça m'a remis sur les nerfs, d'un coup. » Un mois de tranquillité, de détente, c'était trop beau pour que ça dure. J'aurais préféré que ce soit le fils Bourassol qui porte le chapeau. Au moins, il ne faisait pas partie de la maison. Ah, on a l'air malin. Je vais passer pour quoi ? Un laxiste. Ce Ardenne ne perd rien pour attendre. Il va la connaître, la guérite, je vous le promets. Bon, ce n'est pas tout. Ce meurtre s'avance ? Pas aussi bien, ni aussi vite que je le souhaiterais. On a un peu de solide. Bernard Thirault a été tué par un Parisien d'une soixantaine d'années. Nous possédons une déclaration d'un témoin qui a repéré le meurtrier alors qu'il quittait une Renault 30 TX de couleur noire immatriculée à Paris et qu'il suivait la victime. Ça se passait devant la préfecture quelques minutes avant l'assassinat. L'Ardenne a vérifié tous les points sensibles entre Paris et Toulouse, les autoroutes, les nationales, mais personne ne se souvient du passage de la voiture suspecte ou d'un type répondant au signalement du meurtrier. Si c'est l'Ardenne qui a fait ce travail, il vaut mieux vérifier. Je ne voudrais pas prendre sa défense, mais pour ce boulot, je lui fais confiance. D'accord, poursuivez. Pour la détermination du mobile, nous ne sommes pas très avancés. Le jeune gars se rendait au Maroc en compagnie de sa fiancée. Je ne saisis pas pourquoi un Parisien passerait par Toulouse en se rendant au Maroc. Ce n'est pas l'itinéraire le plus direct pour Marrakech. Non, en effet, Bernard Thirault et sa fiancée sont historiens. Ils ont fait un crochet par Toulouse dans le but de consulter des archives au Capitole et à la préfecture, des liasses de papier sur l'histoire régionale. J'ai travaillé là-dessus 2 jours avec l'Ardenne, sans résultat. Par contre, je me suis rendu à Paris et j'ai découvert des choses plus intéressantes. Le père de la victime a été tué dans des circonstances assez troublantes en octobre 61, lors d'une manifestation organisée par les Algériens. Je peux même dire qu'il a été exécuté scientifiquement. Par qui ?
À première vue, c'est une liquidation d'ordre politique, la raison d'État. J'ai retrouvé l'argent qui était chargé de ce travail. Il habite sur la route de Montauban dans un petit bled. Il est à la retraite. À l'époque, il faisait partie des brigades spéciales, des sortes de commandos clandestins créés par le ministère pour neutraliser les responsables de l'OAS et du FLN. Au besoin, pour les neutraliser définitivement. Le service était dirigé par André Veilleux, un ponte de la préfecture de police. Bien entendu, il s'arrangeait pour éviter les enquêtes et les autopsies. Les dossiers sont vides. Je ne sais pas si ça servirait à grand-chose de les remplir. Tous ces événements sont couverts par un décret d'amnistie. Mais vous pensez que ces deux affaires sont liées, c'est bien ça? Il n'est pas trop difficile d'échafauder une hypothèse selon laquelle le fils Thiraud serait parvenu à identifier le meurtrier de son père et qu'il soit venu dans notre région dans le but de le venger. Cela explique son itinéraire. Ça ne me déplairait pas trop, mais j'ai tout un tas de détails qui ne rentrent pas dans ce schéma. D'abord Pierre Cazes. À part l'âge, il ne correspond pas beaucoup au portrait dressé par le témoin. Je ne le vois pas compliquer inutilement son boulot en se procurant une voiture immatriculée à Paris pour venir commettre son crime, en plein jour, avec le maximum de risques. Si c'est un professionnel, et nous avons affaire à un professionnel de premier ordre, c'est exactement le type de raisonnement qu'il aimerait vous voir adopter. Le tueur domine parfaitement la situation, Cadet. Si vous n'avez pas retrouvé de traces de cette Renault 30 TX, c'est peut-être qu'elle n'a jamais fait le trajet Paris-Toulouse. Il faut bien qu'elle existe pourtant. Aucun véhicule de ce modèle n'a été volé au cours de la semaine précédant la mort de Bernard Thiraud. J'ai vérifié personnellement le listing national. Pourquoi ne lui aurait-on pas prêté cette voiture? Grattez l'emploi du temps de ce Pierre Cazes et voyez si l'un de ses amis ne roule pas en Renault noir. Vous êtes retourné aux archives après avoir déniché cette histoire de manifestation algérienne? Non, pourquoi je devrais? À votre place, je me paierai une nouvelle séance de dépoussiérage. Maintenant, vous savez ce que vous cherchez. Un rapport avec ce Pierre Cazes ou les brigades spéciales. Ça vaut la peine de fureter 2 ou 3 heures. Vous avez une toute petite chance de déterrer une explication. Mais peut-être que vous reviendrez bredouille si la victime compulsait réellement un dossier concernant son travail d'historien. Dans ce cas, l'affaire Thiraud gardera son mystère. Jusqu'au jour où on mettra la main sur un formulaire d'assurance vie ou une banale lettre de rupture. Les plus beaux crimes sont souvent les plus ordinaires, non? Pas celui-ci. Il y a trop de coïncidences, de ramifications. À vrai dire, je dois démasquer l'assassin de Bernard Thiraud, mais la seule chose qui me passionne réellement, c'est de comprendre pourquoi un petit prof du lycée Lamartine en arrive à se faire liquider par un agent de la police politique déguisé en CRS au cours d'une manifestation algérienne. Si j'étais assez gonflée, j'irais demander la raison de tout ça à André Veillu, l'ancien patron des brigades spéciales. Tout est amnistié, il ne risque rien à parler. Je ne vais pas vous apprendre à mener une enquête, Cadet, bien que je ne renoncerai jamais à donner quelques conseils. Écoutez, vous travaillez à votre guise. Vous pouvez remonter à Alésia ou à la Saint-Barthélemy si vous le jugez indispensable et que cela aboutisse à l'arrestation du coupable. Le but, c'est de solutionner le problème. En clair, je me fiche des chemins que vous empruntez pour y arriver. Mais si vous sortez un tant soit peu de la légalité, n'ouvrez pas le parapluie. Proclamez bien fort que c'est du Cadet et rien d'autre. Je ne veux pas que mon nom soit mêlé à je ne sais quel tripatouillage. Tenez-vous le pour dit. J'ai toujours pris mes responsabilités, commissaire. Je suis convaincue que ces deux crimes sont liés. Pour l'instant, la liaison est uniquement d'ordre familial. Rien ne vous autorise à l'extrapoler. Soyez très prudent. Vous venez d'évoquer l'existence de deux crimes, alors qu'il y a moins de 5 minutes, vous admettiez que la mort de Roger Thiraud était couverte par l'amnistie. Regardez bien attentivement où vous mettez vos pieds, Cadet. J'essaie, commissaire. Il ne suffit pas d'essayer. Surtout, ne vous basez pas sur vos convictions. Laissez ça au juge. J'ai besoin d'un coupable tout aussi présentable que le cadavre ramassé près de l'église Saint-Jérôme. À tout point de vue, il serait préférable que vous demeuriez à la tête du commissariat le temps de boucler cette enquête. Vous aurez les coudées plus franches.
Il me reste 2 ou 3 jours de récupération. Je comptais les prendre pour les palombes, mais rien ne m'interdit de les utiliser cette semaine. Qu'en pensez-vous ?
Je n'en demandais pas tant.
Je suis d'accord. Le jeu en vaut la chandelle. Toutefois, j'avais le vague pressentiment que cette soudaine générosité masquait autre chose. Matabio me libéra de ce doute. J'en profiterai pour bricoler à la maison. Il y a toujours quelque chose à faire dans un pavillon. Une dernière chose, Cadin. Voyez avec prudence pour cette histoire de fichier interverti. Je compte sur votre sens de la diplomatie pour régler au mieux. Chapitre 8. Je m'acquittais de cette clause secrète toute affaire cessante en téléphonant au maire adjoint de l'information. Prodis me laissa parler moins d'une dizaine de secondes avant de m'interrompre brutalement. « Inspecteur, je me fiche de vos 400 cartes de remerciement. C'est du détail. On croyait les tenir depuis la découverte des plaques à l'imprimerie municipale. Eh bien non, le conducteur offset a dû nous refiler une liste de noms choisis au hasard, et leur travail de sape repart de plus belle. On nous signale de partout la distribution d'une lettre de l'INSEE qui annonce l'annulation du recensement général de la population de Toulouse par décision du ministre de l'Intérieur. Je vous lis la lettre. J'entendis le bruit caractéristique du papier qu'on déplie. De nombreux dossiers confidentiels ayant été subtilisés par un groupe intitulé INSEE, Intervention nationale sur l'équipement électronique, et circonstances aggravantes, le recrutement trop permissif par la mairie du personnel recenseur ayant permis l'infiltration d'individus qui, se servant d'un malaise légitime vis-à-vis de l'informatique, cherchent à nuire à la mise en fiche systématique des individus et à la planification des rapports sociaux, le recensement est annulé dans l'agglomération toulousaine. Il recommande ensuite aux gens de se rendre en mairie pour retirer leur dossier. Ce n'est pas 400 personnes que nous avons sur les bras, mais au moins 10 000 selon nos premiers sondages. Je raccrochais en vitesse et laissais Prodis à sa parano. J'appelais Bourassol. Il avait patiemment exploré l'hypothèse selon laquelle l'assassinat de Bernard Thirault se résumait à une simple méprise et que la victime ne constituait pas la cible réelle. À la suite d'un travail minutieux, Bourassol était parvenu à dresser la liste de la grande majorité des individus présents dans les locaux de la préfecture le jour du meurtre, entre 16 et 18 heures. Vous savez, inspecteur, au lieu de placer nos gars en planque dans les quartiers chauds, il vaudrait mieux les faire embaucher comme hôtesses d'accueil dans le hall de la préfecture. J'ai dressé une liste incroyable, une dizaine de gros poissons qui ne se prennent jamais dans nos filets, mais qui se baladent sans être inquiétés à 2 pas du cabinet du préfet. Joey Cortance, par exemple, si je ne me trompe pas, est bien sous le coup d'un mandat d'arrêt pour un hold-up à main armée.
Oui, c'était exact. Ça ne l'empêche pas d'être reçu de manière très officielle par le secrétaire général adjoint et le chef de cabinet.
Allons, brigadier, vous faites ce boulot depuis assez longtemps pour savoir que nos succès reposent à 95% sur les confidences des indicateurs. Vous venez de découvrir l'œuf de Colomb. Vous avez bien quelques relais autour des lycées pour suivre le passage du shit, non ?
Oui, mais pas de ce calibre.
À part ça, j'ai retrouvé une vieille connaissance, l'ex-brigadier Potrez. Il ressemble vaguement à Bernard Thirault, même corpulence, même allure. Il est un peu plus vieux de 5 ans, mais pour quelqu'un qui travaillerait sur photo, la confusion est possible.
Je ne me rappelle pas de ce nom, Potrez.
C'était un as du pistolet, la vedette de la 2e brigade territoriale, jusqu'au jour où il a ouvert le feu sans sommation sur un motocycliste. Il se trouvait en planque pour monter un flagrant délit contre une bande de voleurs de voitures, le gang des BMW.
un môme en moto qui passait dans le quartier a pris peur en voyant un mec en civil qui se baladait avec un magnum dans les poignets. Il a filé. Un véritable carton. Le médecin légiste a sorti 5 balles. Elles étaient logées dans une surface pas plus grande que ma main. Potresse a été viré de la police. Il bosse maintenant dans une boîte de convoyeurs de fonds. Dans la presse, je me souviens que les amis du jeune motard se disaient prêts à le venger. C'est souvent sous le coup de la colère. Après, ça se tasse. Oui, où ça se réalise. Ça a demandé plusieurs années, mais Tramoni s'est fait descendre pour le meurtre de Pierre Auvernet. Même s'il y a une chance sur 1000 que ça nous mène à l'assassin, il faut aller jusqu'au bout. On verra bien si ça mord. Je décidai de rentrer tôt ce soir-là. Je me mis au lit dès la fin des informations de 20h. J'avais le choix entre une rediffusion de Jeux sans frontières opposant Bécon les Bruyères à Knock le Zout, un magazine consacré à la renaissance de l'art lyrique dans les Vosges et un débat sur l'étalement des vacances. Je n'avais aucun recours, mon magnétoscope étant resté bloqué à Poitiers, je me rabattis sur Gutenberg et je fouillais les étagères de la bibliothèque en quête d'un livre oublié. Je tombais sur la monographie inachevée de Roger Thirault que Claudine m'avait confiée. Je le soupesais, examinais la couverture et me décidais à l'ouvrir. Ce n'était pas un livre à proprement parler, tout juste une maquette. Il semblait destiné à être reproduit tel que. La page de garde s'ornait du blason de la ville de Drancy, surmontée d'une dédicace calligraphiée à Max Jacob. Le titre était composé de lettres à fait. Drancy, des origines à nos jours, par Roger Thirault, professeur au lycée Lamartine. Je feuilletais rapidement le volume. De nombreuses pages comportaient des blancs encadrés au crayon et annotés. Roger Thirault avait prévu l'emplacement exact des illustrations, photos, graphiques, plans. Il indiquait pour chacune d'elles la source, la référence bibliographique. Le premier chapitre de l'étude évoquait en quelques paragraphes l'histoire de la Terre à l'époque secondaire. Le commissaire n'avait pas poussé aussi loin. Il s'était arrêté à Alésia. Je lus en diagonale, retenant le sens général du texte. La mer recouvrait la région parisienne, des sédiments argileux et calcaires se déposèrent sur le site où, des milliers d'années plus tard, allait naître Drancy. Je sautais plusieurs millénaires en passant au chapitre 3. J'appris que le nom de cette ville venait d'un colon romain, Terentiacum, transformé en Derentiacum, Derenti, puis Drancy. Je m'amusais à décliner mon patronyme en sens inverse. Je parvins à un Caradinatiacum satisfaisant. En l'an 800, la bourgade ne possédait pas l'école et sa population se limitait à 200 personnes. Je fis un bond de 8 siècles consacré aux semailles et aux récoltes pour faire connaissance avec la première célébrité locale, Crète de Paluel, un pionnier du machinisme agricole. Tel était le titre alléchant de ce chapitre. Roger Thirault envisageait de réserver une page entière à la reproduction du buste de cet éminent savant. Il notait « Photo est réalisée au cabinet des estampes, BN ». Je me plongeais dans la courte biographie de Crète de Paluel. Né à Drancy en 1741, il inventa le cylindre à dents, la hache-racine, le hachoir à paille et la charrue butoir pour les pommes de terre. Grand ami de Parmentier, il participera à égalité avec lui à la promotion de ce tubercule. Roger Thirault, dans des paragraphes d'un lyrisme vieillot mais efficace, tentait de mettre fin à cette injustice et s'attachait à asseoir la renommée de son grand homme. La Révolution n'avait pas laissé de traces profondes dans les sillons drancéens. Mais la chute et l'explosion, le 17 octobre 1870, d'un ballon dirigeable gonflé au gazomètre de la Villette occupait une large place. La période contemporaine constituait la seconde partie de l'ouvrage. Elle s'ouvrait sur une citation des Misérables. Paris-Centre, la banlieue circonférence, voilà pour ses enfants toute la terre. Jamais ils ne se hasardent au-delà. Pour eux, à deux lieues des barrières, il n'y a plus rien. Ivry, Gentilly, Aubervilliers, Drancy, c'est là que finit le monde. Je fermais les yeux un court instant. Ces mots évoquaient en moi les quelques heures passées avec Claudine sur les vestiges des fortifications. Roger Thirault passait très rapidement sur les événements politiques nationaux dès lors qu'il n'avait pas d'incidence sur sa ville natale. Il insistait davantage sur les variations de couleurs des élus municipaux et la construction des premiers équipements modernes. Dans les derniers chapitres, il mettait en lumière la vocation de persécuteur des maires d'avant-guerre et leurs projets urbanistique intéressant la ville. Il s'agissait de l'édification d'une vaste cité-jardin comprenant plusieurs milliers de logements individuels et collectifs. Une sorte de métropole idéale, un phalanstère du XXe siècle dans lequel chaque habitant aurait à sa disposition l'ensemble des services et des équipements collectifs, école, stade, hôpital, crèche, commerce. Les travaux de la cité pavillonnaire débutèrent en 1932. La ville doubla de population pour atteindre près de 45 000 habitants. En 1934, on lança un programme encore plus audacieux. Drancy abriterait les premiers gratte-ciels français. 5 tours de 14 étages chacune, une série de bâtiments en barre et une imposante cité en forme de fer à cheval de 4 étages, regroupant plusieurs centaines de logements répartis en une trentaine d'escaliers. On baptisa le tout la Muette, du nom d'un lieu dit situé à proximité. Hélas, les espoirs de vie communautaire qui agitaient les esprits des architectes d'avant-garde eurent un bien étrange destin. Les techniques employées alors dans le bâtiment montrèrent leurs limites et de nombreuses malfaçons apparurent, avant même la mise en location des appartements. Si les pavillons trouvaient preneur, les premiers skyscrapers français ne rencontraient pas le succès auprès du public qu'en attendant leurs promoteurs. Des étages demeuraient vides malgré la modicité des loyers. Il fallut se rendre à l'évidence. Les lapins n'étaient pas mûrs pour leur cage. On brada la cité entière au ministère de la Défense qui cantonna un régiment de gardes mobiles. Je me levai un moment pour boire une bière et me détendre. Je me replongeai ensuite dans les aventures de la cité-jardin de Drancy. Roger Thirault se passionnait pour son sujet. Les détails abondaient. Pour l'année 1940, il précisait le nombre exact de soldats allemands faits prisonniers sur le front et internés dans la cité de la Muette. Au passage, je relevais ce détail qui sonnait comme une révélation. L'armée française avait réussi à faire des prisonniers durant la drôle de guerre. Mais bientôt, les Allemands s'installèrent à Drancy. Ce fut en changeant de rôle. De gardés, ils passèrent gardiens. Dès l'été 40, ils internèrent les lambeaux des armées françaises et anglaises, ainsi que des civils yougoslaves et grecs arrêtés à Paris. Le 20 août 1941, la cité de la Muette fut officiellement transformée en camp de concentration destiné au regroupement des Juifs français avant leur transfert en Allemagne et en Pologne occupée. Roger Thirault citait le chiffre de 76 000 personnes, femmes, enfants, vieillards rassemblés en 3 ans à quelques kilomètres de la place de la Concorde et déportés vers Auschwitz. Il estimait le nombre des rescapés à moins de 200 000. À moins de 2 000, pardon. Chaque semaine, 3 000 personnes passaient par Drancy, gardées par 4 soldats allemands, secondés dans leurs tâches par plusieurs dizaines de supplétifs français. Roger Thirault soulignait le chiffre 4. Il reconstituait la vie du camp à l'aide de coupures de presse, d'entretiens avec des rescapés. Je me forçais à en lire certains passages. Lorsque nous parlions de Drancy devant les enfants, nous avions inventé un nom pour ne pas les effrayer. Un nom presque joyeux, Pichipoy. Drancy, c'était Pichipoy. La page suivante était barrée d'un trait de crayon et agrémentée d'une légende explicative. Reproduire le fac-similé de la lettre du commandant de Drancy annonçant à Eichmann le départ du premier convoi comportant des enfants de moins de 2 ans. Convoi D-901-14 du 14-8-1942.
Certains de ces documents se trouvaient réunis en annexe, dans une enveloppe de papier Kraft. Je sortis d'une note du bureau d'alimentation datée du 15 avril 1943. En réponse à votre note du 9 courant, nous avons l'honneur de vous communiquer les renseignements suivants. 1. Enfant de moins de 9 mois, 347. 2. Enfant de 9 mois à 3 ans, 882. 3. Enfant de 3 ans à 6 ans, 1245. Enfant de 6 ans à 13 ans, 4134. Quantité de lait perçu actuellement par mois, 3223,5 litres. En raison des sautes d'effectifs très fréquentes, les renseignements ci-dessus ne donnent qu'une idée approximative et le nombre d'enfants peut varier de plus ou moins 50 unités d'un jour sur l'autre. Une autre liasse de papier portait la dénomination « éléments chiffrés à classer » de la main de Roger Thirault. De longues colonnes de chiffres s'étageaient sous des titres de rubriques dont la sécheresse de rédaction décuplait le tragique. Date de départ, convoi, numéro d'ordre, camp de destination, gazé à l'arrivée, sélectionné H, sélectionné F, survivant en 45. Le total des déportés recensés atteignait 73 853, celui des survivants 2190. Le dernier tableau établissait région par région l'origine géographique des personnes internées à Drancy. Il comportait une sorte de classement par tranche d'âge. La région parisienne venait en tête, suivie de la région Midi-Pyrénées, loin devant le nord ou le centre, dont les ressortissants juifs semblaient avoir échappé à l'étau gestapiste. La région parisienne tenait toutes les premières places de ce sinistre hit-parade, à l'exception de la première tranche d'âge concernant les enfants de moins de 3 ans, tandis que l'immense majorité des circonscriptions avouaient des pourcentages situés entre 5 et 8%, Paris atteignait 11% et Midi-Pyrénées franchissait la barre des 12%. Je refermais le livre inachevé de Roger Thirault en proie à une profonde angoisse. J'hésitais longtemps avant d'oser éteindre la lumière. Le sommeil tardait à venir. Je me relevais pour suivre le dernier journal télévisé. Je m'endormis au matin, alors que la rue s'emplissait déjà des premiers bruits du travail. Le commissaire Matadio entra en scène le premier, étrangement vêtu d'une ample cape noire, la tête recouverte d'une cagoule. Je savais qu'il s'agissait de lui, sans même voir son visage. Il marchait lentement et traversait le couloir dont la naissance se fondait à l'infini. Son masque accrochait les reflets bleutés des néons enfouis dans le sol. Matadio avançait, la tête posée sur son épaule gauche, et distribuait à une multitude d'êtres chétifs des petits carrés de carton vert ornés de la photo de Prodis. Je me trouvais sur son passage, nu. Il me fit remarquer le caractère indécent de ma tenue en me remettant un papier. Sous la photo de l'adjoint à l'information, je reconnus le tampon officiel du commissariat, mais les lignes de texte se brouillèrent dès que j'essayais de les déchiffrer. Je me tournai ensuite vers les autres participants à cette inquiétante cérémonie et j'identifiai sans peine une bonne moitié de ceux qui m'entouraient. Les familles en deuil se mêlaient aux ex-grévistes du service des cimetières, tandis qu'une unité de garde mobile tentait d'extraire une imposante pépite des entrailles jaunâtres d'un hippopotame rigolard. Soudain, un bruit assourdissant, fait de crissements suraigus et d'explosions, figea l'assistance. Matabio se volatilisa dans le scintillement du carrelage. Le couloir s'était élargi, les parois comme ramollies bougeaient au rythme d'un cœur absent. L'horizon s'obscurcit alors et une Renault noire démesurée surgit fonçant droit sur nous, ses roues posées sur des rails luisants qui semblaient naître de son mouvement. Un visage hideux, déformé par les imperfections du pare-brise, grimaçait derrière le volant. Je distinguais d'un coup les traits de Pierre Caz. Je restais paralysé et fermais les yeux pour ne pas voir ma mort.
en pure perte. Mon regard perçait le voile de mes paupières. Le CRS était maintenant pris d'une sorte de folie. Il sautait sur son siège en hurlant. Sa bouche, ses orbites, son nez se remplissaient de milliers de fourmis noires, aux pattes phosphorescentes, qui arrachaient par milliers et qu'il rejetait contre les vitres du véhicule. La voiture traînait dans sa course folle une file de wagons interminables, de vieux wagons de marchandises en bois, marron, dont les montants pliaient sous la violence des à-coups de la traction. La fin du convoi était composée de containers sans toit qui bondissaient en l'air et retombaient lourdement sur les rails, provoquant des gerbes à l'odeur de poudre. À chacun de ces sauts, des milliers de crânes d'une blancheur calcaire jaillissaient des containers et éclataient sur le ballast du couloir. Claudine Chenet apparut à la lisière d'un bois situé sur ma gauche. Elle était accompagnée de l'archiviste au pied beau de la préfecture de Toulouse. Ils réussirent à stopper la marche effrénée du gigantesque convoi et ils ouvrirent les portes plombées une à une. Des centaines d'Algériens ensanglantés sortirent des wagons. Ils formèrent d'immenses files pitoyables qui barrèrent l'horizon. Un employé de la RATP décrocha la voiture et libéra une vieille femme du coffre qui la retenait prisonnière. Je crus distinguer le premier sourire de Madame Thirault quand le train s'ébranla. Toutes les roues se mirent à crisser pour former une plainte insupportable. Deux mains monstrueuses se posèrent de chaque côté du capot de la Renault. Les pouces obstruèrent les phares du véhicule. Je me sentis aspirée très loin vers le fond de mon lit. Toute la scène se fondit à une vitesse vertigineuse en un minuscule point rouge qui rejoignit l'infini. J'eus le temps de voir une silhouette dont les contours rappelaient ceux du brigadier Lardenne qui se penchait sur le petit écran d'un jeu vidéo de poche imitant la forme d'une automobile. Une musique lancinante recouvrit le fracas du train en adoptant le caractère saccadé. Des milliers de voix enfantines rythmaient la disparition du convoi. Pichipoy, pichipoy, pichipoy. Je me réveillai en sursaut, couvert de sueur froide. Je restai de très longues minutes hagard, essayant de tricher avec la peur et d'oublier ces paysages de mort. Je tentais d'imposer d'autres images à mon esprit. Cette promenade sur les fortifications, le repas chez Dalbois. En vain, le visage de Claudine s'évanouissait, imperceptiblement remplacé par celui de Bernard Thirault. Dalbois prenait les traits de Pierre Caze. Je parvins à contourner ma terreur en reprenant entre les mains le livre de Roger Thirault. Il achevait le récit de la cité de la Muette à moins d'une page. Le camp libéré en août 1944 abrita à partir du mois de septembre plusieurs milliers de Français accusés de collaboration avec l'ennemi. Roger citait le nom des personnalités les plus marquantes, de Tino Rossi à Sacha Guitry, qui firent un bref séjour à Drancy dans ces circonstances. En 1948, on procéda à la réhabilitation des bâtiments qui furent rendus à leur destination première. En annexe, l'auteur signalait le titre d'un film, « L'enfer des anges », tourné dans la cité en 1936 avec Mouloudji pour vedette. La contribution du fils, Bernard Thirault, se limitait à un vague plan d'achèvement de l'ouvrage couvrant la période 1948-1982. Le soleil inondait la pièce. Je m'approchais de la fenêtre. De lourds nuages noirs naissaient à l'horizon, annonçant l'orage. Je me rallongeais sur la couverture, les mains sous la nuque, et demeurais là, l'esprit vide, jusqu'à 8 heures. J'avalais un café en poudre, puis me décidai à aller au commissariat. Quand j'arrivais, je surpris le brigadier Lardenne grimpé sur un meuble métallique qui oscillait sous ses semelles. Il décrochait l'imposante carte routière de la France, édition de 1971, qui recouvrait la presque totalité du mur d'entrée. « Que faites-vous, Lardenne? Vous allez vous casser la gueule ?» Il se tourna vers moi et bafouilla une réponse, impossible de saisir le moindre mot. Parler distinctement, je ne comprends rien. Il porta une main à sa bouche et cracha une demi-douzaine d'épingles. La direction départementale de l'équipement nous a refilé une carte mise à jour de cette année. Il y a toutes les nouvelles routes et même le tracé des autoroutes programmées jusqu'en 85. Je vire cette antiquité. Je m'arrêtai un court moment pour admirer les talents de bricoleur du brigadier. Il déplia le nouveau plan, le disposa sur le mur en plantant une pointe tous les 20 cm. Sa tâche accomplie, il descendit du classeur et vint se placer à côté de moi pour juger son œuvre avec le recul nécessaire. Il n'y a pas de comparaison, inspecteur. Ça redonne un peu de couleur à ce bureau. Vous ne trouvez pas ? Je ne parvenais pas à détacher mon regard du tracé des autoroutes qui sillonnaient la France. Le graphiste n'avait pas lésiné sur la palette. Les artères les plus importantes étaient soulignées d'un trait jaune bordé de deux lignes parallèles orange vif. « Regardez bien cette carte, l'Ardenne. Vous ne remarquez rien à propos des autoroutes ?» Il me dévisagea visiblement interloqué. « Non, il y en a un bon paquet. Vous croyez qu'ils ont fait une erreur ?»« Observez attentivement, c'est pourtant évident. Vous reprenez toute l'enquête au début, dès maintenant. »« Quelle enquête, inspecteur ?» Il n'y en a pas mille, l'Ardenne. Je vous parle de celle concernant le meurtre de Bernard Thirault. Vous retournez interroger tous les postes de police situés sur l'autoroute entre Paris et Toulouse, les stations-service, les restos-routes, dans les deux sens. Vous avez du boulot. L'inspecteur, ils me répondront la même chose qu'il y a 15 jours, sans compter ceux qui auront des trous de mémoire ou qui m'en verront balader. Je me mis sous la carte. Avec une règle, je suivis un tracé orange. Qui vous parle d'interroger les mêmes personnes ? Nous nous sommes trompés de direction la dernière fois. Il n'est peut-être pas venu par l'autoroute A10, mais par la A6. C'est complètement idiot. Il faut faire 300 bornes supplémentaires. C'est jouable, l'Ardenne. Je veux un rapport ce soir au téléphone pour la montée sur Paris. Et n'oubliez rien, le ratissage intégral. N'hésitez pas à m'appeler à n'importe quel moment, ici comme à la maison. Faites signer votre ordre de mission par Bourassol et bonne chance. L'Ardenne me salua. Je me propulsai vers la préfecture de Toulouse. Je donnai le nom de l'écussant à l'hôtesse qui interdisait l'accès aux étages. Elle me laissa passer. Le chef archiviste me fit un signe d'amitié dès qu'il m'apparut. Il se décida à venir à ma rencontre en claudiquant laborieusement. À chaque pas, il faisait l'effort de soulever son pied beau, alors qu'un simple glissement de sa prothèse sur le parquet lui aurait évité un surcroît de fatigue et aurait mis un terme à cette impression pénible que provoque le déhanchement des infirmes chez ceux qui les observent. « Monsieur l'inspecteur, je suis heureux de vous revoir. Nos vieilleries ont bien du charme, n'est-ce pas ?» Je lui laissai le temps de parvenir à ma hauteur avant de répondre. « Oui, je n'aurais jamais cru. J'aimerais jeter un nouveau coup d'œil sur les documents de l'autre jour, ceux que ce malheureux garçon a compulsés. »« Vous avancez, si ce n'est pas indiscret ?» Oh, une simple vérification. D'autre part, je pense que vous tenez à jour un fichier des personnes demandant à consulter vos ouvrages. Bien entendu, c'est la règle dans l'ensemble des bibliothèques administratives françaises. Pourquoi cette question, inspecteur ? J'inventai rapidement une explication plausible. C'est une idée du commissaire Matabiau. Nous sommes sur la piste d'un retraité de la police qui a connu la famille de Bernard Thirault. Je voudrais voir si son nom ne traîne pas dans un fichier à tout hasard. L'écussant se montra très aimable. Je peux me charger de cette recherche. Pour moi, c'est de la routine. Vous pourrez ainsi vous consacrer aux autres dossiers. Non, c'est inutile, je vous remercie. Indiquez-moi le lieu où se trouve ce fichier. Il est derrière vous, dans le bureau de l'archiviste adjointe. Chaque fiche de lecture est numérotée, puis classée par ordre chronologique. Pas de classement alphabétique ? Non, cela ne présenterait aucune utilité pour nous. D'ailleurs, c'est un travail mécanique. Ces fiches ne servent jamais à rien, mais la loi nous oblige à les constituer. L'archiviste adjointe, une jeune femme, le visage caché derrière d'imposantes lunettes d'écaille, me remit la collection des fiches de l'année en cours. Je retrouvai sans difficulté le carton sur lequel Bernard Thirault avait inscrit son nom, le motif de sa recherche et les références des dossiers qu'il désirait consulter. Ensemble de la cote DE. Je restais un bon moment à feuilleter les fiches sans trouver quelque chose qui ressemble au nom de Pierre Cazes. Je rendis le classeur à l'archiviste. Sous le coup d'une inspiration subite, je lui demandai de me donner la compilation de l'année 61.
1961. J'ouvris fébrilement le volume au mois d'octobre. Je ressentis un violent choc qui me coupa le souffle en tombant sur une fiche du 13 octobre 1961 remplie au nom de Roger Thirault. Je fermai les yeux, je relus une seconde fois calmement pour être sûr de ne pas me tromper. Préfecture de Toulouse, bibliothèque administrative, date le 13-10-1961. Nom du demandeur, Roger Thirault, domicile, Paris 2e. Objet de la recherche, personnel. Nature des documents consultés, ensemble côte DE. Je rendis le document à la jeune femme. Vous avez trouvé ce que vous désiriez, monsieur? Oui, je crois, merci. Le chef de service m'attendait dans la travée, une boîte d'archives sous le bras. Voilà la cote DE. Ce sont exactement les mêmes papiers que lors de votre précédente visite. Vous aurez peut-être plus de chance. Et cet ancien policier, vous avez trouvé sa trace? Non, je pense que le commissaire Matabio faisait fausse route. J'étalais le contenu de la boîte sur une table de consultation et triais les différentes chemises. J'écartais les DE broussaillage, DE dommagement, défense passive et autres désinfections pour concentrer mon attention sur les dizaines de pièces référencées déportation. J'affrontais avec dégoût l'horreur insidieuse de ces notes de service qu'échangeaient les fonctionnaires afin de parfaire l'efficacité de la machine à broyer les corps. Une suite de correspondances mettait ainsi en lumière les différentes phases de la déportation des enfants juifs de la région Midi-Pyrénées. En premier lieu, une lettre du secrétaire aux questions juives de la préfecture de Toulouse, signée des seules initiales AV, demandant à Jean Bousquet, ministre de l'Intérieur, s'il fallait exécuter les ordres allemands. Ceci prévoyait l'envoi à Drancy des enfants juifs dont les parents étaient déjà déportés. Le ministre répondait par l'affirmative. Le secrétaire aux affaires juives de Toulouse donnait ses instructions à la police locale pour la mise en œuvre du programme nazi. Ce parfait fonctionnement de l'administration locale allait permettre à cette région de ravir la première place à Paris au championnat de l'épouvante, loin devant le reste du pays. Aucun document ne mentionnait le nom de Pierre Cazes. Je ne me sentais pas d'attaque pour un nouvel examen. Je replaçais toutes les chemises dans le carton. Je cognai à la porte du bureau de l'écusson sans obtenir de réponse. Je fis le tour des rayons sans le trouver ni entendre le bruit caractéristique de son déplacement heurté. Je finis par m'adresser à son adjointe. L'archiviste en chef n'est plus ici ? Non, monsieur l'écusson est sorti il y a une dizaine de minutes. Vous voulez lui laisser une commission? Ce n'est pas la peine. Remerciez-le simplement de ma part pour toute son aide. La première pluie me surprit sur les marches du perron de la préfecture. Des rafales de vent qui gagnaient en violence à chaque minute soulevaient la poussière sèche accumulée sur les trottoirs et dans les caniveaux. Je me hâtais de rentrer dans le commissariat pour éviter de prendre le gros de l'orage sur le dos. Il n'était pas encore 6 heures, mais il faisait nuit. Un tapis de gros nuages assombrissait le ciel. On avait allumé les plafonniers de la salle de permanence et leur lueur blême enveloppait la pièce dans une atmosphère sinistre. Le coup de téléphone de l'Ardenne me surprit dans le bureau de Matabio à la recherche d'un bottin de Toulouse. Inspecteur, vous aviez peut-être raison. Je crois qu'on tient une piste. Vous m'appelez de quel coin? De Saint-Rambert d'Albon, sur l'autoroute A6 entre Lyon et Valence. J'ai fait plus de 550 bornes depuis Toulouse. C'est chouette comme coin. On voit le Rhône en contrebas. C'est pas loin du Mont Pilat.
Vous me lirez le dépliant du syndicat d'initiative à la prochaine veillée du comité d'entreprise, l'Ardenne. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je le saurai demain avec certitude. Je viens de rencontrer une équipe de motards qui sillonne l'autoroute entre Lyon et Avignon à longueur de journée. Un des gars était de permanence la nuit qui a suivi le meurtre de Bernard Thirault. Il travaillait en doublette avec un autre gendarme. C'est pour ça qu'il faut attendre demain. Expliquez-vous clairement, c'est encore pire que si vous aviez une poignée de punaises sur la langue. En deux mots, François Lecomte, le motard en question, était occupé à vérifier les papiers d'un camionneur à la hauteur de l'Auriole, au-dessus de Montélimar, à 11h57 exactement. Il a une sacrée mémoire. Non, il lui a foutu un PV. L'heure figure sur la souche. Pendant ce temps-là, son collègue a arrêté une Renault 30 TX noire qui roulait à plus de 150 à l'heure. Immatriculé à Paris. Je me renseigne. En tout cas, le conducteur se faisait passer pour une huile de première. Il a montré une carte tricolore, du moins c'est ce dont François Lecomte se souvient. Il était en train de remplir la contravention de son client. Interrogez son collègue, ça ira plus vite. Justement, c'est le problème. Il est en congé depuis le début de la semaine. Je me débrouille pour obtenir ses coordonnées. Il paraît qu'il fait beau en Bretagne, dans un caravaning. On est vernis. Notre seul témoin est en pleine nature sans téléphone. Vous voulez que j'aille faire un tour vers Brest, inspecteur ? Non, continuez de cuisiner vos motards et tâchez de leur soutirer l'adresse de leur pote. Ça a vraiment l'air de coller. Le crime a eu lieu à 6 heures. Il a fait 500 km avant minuit, y compris la sortie de Toulouse. Nous avançons, je le sens. Dès que vous avez fini à Saint-Albert-d'Albon. Comme vous voulez. Donc, dès que c'est terminé, vous filez à Paris. Vous m'attendez à mon hôtel. Je ne tarderai pas à vous rejoindre. Prenez l'autoroute A10, inspecteur, c'est plus direct. Je ne comprends toujours pas pourquoi il s'agit bien de notre homme. Il s'est envoyé le trajet Paris-Toulouse aller-retour en empruntant l'autoroute du Sud au lieu de suivre tout bonnement l'itinéraire par Bordeaux. J'ai fait le calcul. Paris-Bordeaux-Toulouse aller-retour, ça monte à 1600 km, tandis que Paris-Lyon-Montpellier-Toulouse aller-retour, ça dépasse allègrement les 2200 km. Il n'a pas fait 600 bornes supplémentaires pour la beauté du paysage. Le Mont Pilat n'a rien à voir dans cette affaire, l'Ardenne. Je suis au moins sûr de ça. Pourquoi alors ? Parce que jusqu'à maintenant, c'est lui qui fixe les règles du jeu. Je devais régler divers dossiers en instance. Je me décidais à quitter les locaux du commissariat à l'arrivée de la brigade de nuit. Une chaleur lourde avait remplacé la fraîcheur apportée par l'orage de la fin d'après-midi. Au contact du macadam surchauffé, l'eau s'évaporait. Une sorte de buée écœurante stagnait au-dessus du sol. Je choisis de descendre à pied jusqu'à chez moi. Je contournais l'église Saint-Cernin pour plonger vers la Garonne par la rue Lautmann. Le flot de voitures et de piétons qui empruntaient le pont Saint-Pierre aux heures d'entrée et de sortie des bureaux s'était calmé. Je longeais le fleuve pour atteindre le quartier des Catalans. Cela m'évitait le détour par l'allée de Brienne. C'est à la hauteur de l'avenue Séjourné que j'eus la première fois conscience d'une présence, comme un écho déphasé de mon propre mouvement. Je marchais quelques dizaines de mètres encore pour me convaincre de la réalité de la filature et me retournais brusquement en scrutant les quais en enfilade. Une silhouette se détachait dans la lumière d'un réverbère sans que je puisse distinguer les traits de mon suiveur, masqué par le contre-jour. L'homme de petite taille reposait ostensiblement sur sa jambe droite. Il braquait sur moi un pistolet sombre dont le canon accrochait quelques parcelles de lumière. Je me rendis compte que notre lampadaire se trouvait à moins de 2 mètres derrière moi. Mon adversaire devait me distinguer dans une même pénombre. Je ramenais doucement mon bras droit sur mon ventre et déboutonnais ma veste avec d'infinies précautions. Ma tentative ne provoqua pas de réaction de celui qui me mettait en joue. Il n'était pas difficile de comprendre qu'il se servait d'une arme pour la première fois de sa vie. Il se tenait les membres raides, la colonne vertébrale rigide. Il maintenait l'arme à bras tendu dirigé à la hauteur de mon visage. À cette distance, il n'avait pas une chance sur 10 de m'atteindre. Il lui aurait fallu fléchir les genoux, courber les reins, plier le bras droit, viser ma poitrine, tout en assurant la stabilité de la pose à l'aide de sa main libre. Je l'interpellais afin de le distraire davantage. « Que voulez-vous ? Si c'est de l'argent, je suis prêt à vous lancer mon portefeuille. » « Cela ne m'intéresse pas, inspecteur Cadin. Je n'ai pas besoin d'argent. Vous n'auriez pas dû fouiller partout. Je ne voulais pas. » Les intonations de cette voix m'étaient familières, mais je ne parvenais pas à l'identifier avec précision. L'homme se chargea de me rafraîchir la mémoire en balançant son pied beau vers l'avant. « Vous êtes fou, l'écussant. Vous ne vous en sortirez pas vivant. Rangez votre arme pendant qu'il est encore temps. » Le chef archiviste avança toujours de sa démarche saccadée, le pistolet pointé en avant. J'avais eu le temps de libérer la pression de l'étui. Je me laissais tomber sur le côté gauche en saisissant dans ma chute la crosse de l'éclair. Instinctivement, mon index glissa sur la culasse et déverrouilla la sûreté avant de se poser sur la détente. Je vidai la première balle du chargeur allongée sur les pavés humides du quai, tandis qu'un jet de feu sortait du poing de l'écussant. Le projectile siffla au-dessus de ma tête. J'appuyai à plusieurs reprises sur la détente sans réfléchir, haletant. Seule la peur de mourir me commandait de tirer. L'écussant s'était écroulé après son premier coup de feu. Son arme avait glissé dans une flaque d'eau. Je me relevai pour la ramasser. En l'orientant vers la lumière pour chasser les reflets, je distinguai l'inscription gravée sur le canon. Liema, Gabilondo y Vittoria. Un modèle identique à celui utilisé par le meurtrier de Bernard Thirault. L'écussant avait cessé de vivre. Deux de mes projectiles lui avaient fracassé le crâne, un troisième était venu se ficher dans le pied bot, juste au-dessus du talon. Je téléphonais au commissariat depuis une cabine située sur le quai. Je donnais la consigne impérative au chef de poste de garder l'information secrète durant 24 heures. Des passants, intrigués par les détonations, commençaient à se rassembler, mais aucun n'eut le courage de m'aborder. Je me demande même si le courage aurait suffi. En m'éloignant, j'entendis les avertisseurs criards du SAMU mêlés à ceux du fourgon de police secours qui se rendait sur les lieux de la fusillade. À 12h30, l'express de Paris quittait la gare centrale de Toulouse. J'avais pu obtenir une couchette. Je m'endormis avant de passer Montauban, percé par les ronflements satisfaits de deux représentants de commerce.
Chapitre 9. Il s'était couché tôt, comme d'habitude. Elle dormait sans bruit. Il la regardait avec tendresse dans la pénombre. Il ne cessait de se retourner dans le lit, gêné par les draps, par la chaleur qui montait du matelas, sensible comme jamais au moindre bruissement dans le jardin, au craquement de l'escalier. Ce n'était pas sa maladie qui l'empêchait de se reposer, ni le dernier examen de son toubib au milieu de l'après-midi. Il savait depuis longtemps qu'on lui jouait la comédie, depuis un an exactement quand il avait mis la main sur les bouquins de médecine que sa femme planquait dans le grenier. Ensuite, il avait remarqué sa façon de se jeter avec avidité sur le moindre article. Il avait compris que son ulcère n'y était pour rien, que la bête immonde le bouffait de l'intérieur. Il faisait semblant de rien, comme s'il croyait à leur fable. On prenait soin de lui, on choisissait ses plats, on lui épargnait le moindre effort. Ils avaient de cette manière grappillé un an de bonheur, un sursis de quelques dizaines de semaines, l'éternité en somme. Non, si le sommeil ne venait pas, la raison était ailleurs, dans la visite de ce petit flic de Toulouse, avec tout ce qu'elle avait fait remonter de souvenirs, de dégoût, de honte. Il ne se passait plus une minute sans qu'il y pense. Les images défilaient dans sa mémoire, tragiques, faisant l'impasse sur ce que l'on privilégie en temps ordinaire, les bons moments. Il se leva, sa brusquerie réveilla sa femme, immédiatement aux aguets. « Tu te sens mal? Tu veux quelque chose, une infusion ?» Il la rassura et se dirigea vers le téléphone, dans l'entrée. Il composa le numéro du commissaire que lui avait laissé l'inspecteur Cadin. Le gardien de permanence décrocha. « Je voudrais parler à l'inspecteur Cadin, c'est très important. L'inspecteur n'est pas à Toulouse, il est parti de toute urgence à Paris pour une enquête. » « Oh, ce n'est pas vrai, le con. Comment peut-on le joindre, son hôtel ? Je suis désolé, monsieur. » Il reposa le combiné, réfléchit un moment, puis il s'habilla à la hâte. Il sortit une boîte en carton planquée sur le haut de l'armoire et, de la boule de chiffon huilé qu'elle contenait, il exhuma un pistolet Browning, un modèle 1935, son arme de prédilection. Il éjecta le chargeur pour le garnir de ses 13 cartouches. Il réenclencha le tout d'un bref coup de pomme. Sa femme se tenait devant lui silencieuse. Il était inutile de prononcer le moindre mot. Dès qu'il eut fini de vérifier l'arme, il la glissa dans sa poche de veste et gagna le garage. La Mercedes, fer métallisé, répondit au premier coup de démarreur, sans qu'il tire le starter. Moins de 10 minutes plus tard, Pierre Cazes s'engageait sur l'autoroute menant à Paris. Plein phare, l'aiguille du compteur bloquée sur le chiffre 180.
Chapitre 10. Le brigadier Lardenne finissait de prendre son petit déjeuner au bar de l'hôtel tout en essayant de décrypter les définitions des mots croisés du Figaro. Je le vis poser sa tartine et remplir plusieurs lignes d'un coup. « Bonjour Lardenne, vous êtes également cruciverbiste ? Vous devriez aller au casino de temps en temps, ça doit vous manquer. » Il sursauta en entendant ma voix. « Inspecteur, déjà à Paris ? Je ne vous attendais pas avant cet après-midi. Vous avez voyagé de nuit ? Vous avez dormi ? Oui, j'ai trouvé une couchette. Alors ce motard, vous avez réussi à le joindre ? Oui, hier soir vers 11h, au camping de Marek Rose à Treberden. C'est un gendarme de Lannion qui s'est rendu sur place. Il a ramené le motard au commissariat de Treberden. Je l'ai eu au téléphone. La Renault 30 TX était bien immatriculée à Paris. Je dois me mettre en rapport avec le service des cartes grises pour obtenir le nom du propriétaire. Il ne l'a pas relevé ? Non, aussitôt arrêté, le gars a sorti une carte tricolore. Il s'est mis à gueuler qu'il était en mission. Le flic l'a laissé filer, mais il a retenu le numéro, machinalement. Le 3627 DHA 75. Excellent, Lardenne. Je me charge de vérifier le nom du propriétaire de la voiture. Quant à vous, foncez chez Madame Thirault, rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Demandez-lui si elle se souvient d'un voyage de son mari à Toulouse en octobre 1961, quelques jours avant sa mort. Ensuite, passez prendre Claudine Chenet à son domicile. Attendez-moi bien sagement tous les deux au café du Palais. Ça se trouve en bord de Seine, un peu plus haut que la préfecture. J'y serai vers 14h. La matinée fut juste longue pour me permettre de passer au service des cartes grises, obtenir le nom du possesseur de la Renault, retrouver le véhicule et m'entretenir avec son chauffeur habituel. Je me mis ensuite en rapport avec le responsable des affaires générales de la préfecture de Toulouse qui répondit favorablement à mes questions. Pour clore la série, je me fis annoncer à Dalbois. « Salut, Cadem. Ma lettre a servi à quelque chose ? Tu sais, ça n'a pas été facile de débusquer ton bonhomme. Ils tiennent au secret. C'était bien lui ? Oui, il a exécuté Roger Thirault en 61 sur ordre. Par contre, je ne pense pas qu'il soit dans le coup pour l'assassinat du fils. En fait, j'ai rencontré un retraité malade qui ne souhaitait plus qu'une chose, se faire oublier, à moins qu'il ne soit meilleur acteur que je ne le crois. » C'est bien possible. Ton retraité paisible s'est remué après ta visite. J'en ai eu des échos par le collègue qui m'a repassé sa fiche. Ne te fie surtout pas à ce genre de mec. Pour faire un boulot pareil, ça ne devait pas être un enfant de cœur. Fais gaffe aux ombres. Peut-être bien. Je l'ai à l'œil et mon entrevue avec lui m'a pas mal appris. Si je ne me gourre pas, je talonne le meurtrier. Il ne me manque plus qu'une toute petite pièce et le puzzle est reconstitué. Et tu comptes la trouver ici ? Je me trompe ? Non, tu as raison. Voilà, il me faut une confirmation. Mon opinion est faite, mais tu sais bien qu'on doit présenter du solide. Chaque fonctionnaire de police est suivi par l'administration du jour de son entrée en service à celui de son départ en retraite. J'ai mon dossier, comme toi. Il est remis à jour chaque année avec une mention du supérieur hiérarchique, d'accord ? Oui, c'est naturel. Je ne vois pas comment on pourrait gérer un corps de près de 100 000 hommes autrement. Je ne critique pas le système. Toute notre carrière est résumée sur ce document qui est transmis au commissaire au moment des mutations. Lorsque je suis arrivée à Toulouse, Matadio a pu prendre connaissance de mon comportement antérieur et du jugement de mes précédents supérieurs. Eh bien, je souhaiterais avoir une photocopie d'un dossier de ce genre. C'est possible ? Ton dossier personnel ? Non, je ne peux pas. Il est classé à Toulouse. Ici, je ne peux accéder qu'au fichier de Paris. Je me fous de mon dossier. Je le connais mieux que personne. Je veux tenir entre les mains celui d'un fonctionnaire de la préfecture de Paris. C'est mieux comme ça. Je vais bien dégoter un délégué syndical qui prendra le temps de jeter un coup d'œil au service du personnel. Tu fricotes avec les syndicats, toi ? C'est bien la dernière chose à laquelle je m'attendais. Modérément, quand on bosse aux renseignements généraux, il est indispensable de varier les fréquentations. Certaines sont surprenantes mais utiles. Les syndicats de police sont assez particuliers, surtout les groupes minoritaires. Quand ils recueillent moins de 10% des voix aux élections, ils cherchent des appuis. Moralité.
autorité, c'est le moment d'intervenir. S'ils grossissent, on peut toujours leur rappeler certaines relations un peu gênantes. Tout se négocie, surtout l'honnêteté. Donne-moi le nom de ton gars et attends-moi dans le couloir. Je t'apporte ton papier d'ici une heure. Je me contentais d'un souvlaki acheté dans la cabane d'un faux grec pour tout déjeuner. J'avalais le sandwich en marchant vers l'île de la cité. Trop d'oignons. Le brigadier Lardenne et Claudine Chenet bavardaient tranquillement assis à la terrasse du café du palais. La jeune femme avait passé une robe. Je vis pour la première fois ses jambes lisses et dorées. Elle se leva à mon approche. « Inspecteur Cadin, que se passe-t-il? Votre collègue ne veut rien dire. Il y a du nouveau ?»« Oui, nous ne sommes plus très loin du dénouement. Je tiens à ce que vous soyez présente lors des aveux du meurtrier de Bernard. Vous vous sentez assez solide ?»«
Oui, allons-y. » Je pénétrai dans la cour de la préfecture, suivi du brigadier de Claudine. Une Mercedes vert métallisé était garée dans la cour d'honneur. Un huissier en uniforme nous indiqua la porte C en tendant le bras vers la voûte. On avait installé un bureau et un fauteuil dans l'entrée. Le planton nous arrêta au pied de l'escalier monumental. « Que désirez-vous ?» Je m'avançai vers lui. Nous souhaitons obtenir une entrevue avec M. Veillu. Monsieur le directeur est occupé, il donne une audience. Vous avez rendez-vous ?
Je répondis négativement. Il me tendit un registre et un stylo.
Inscrivez votre nom et le motif de votre demande sur ce cahier.
Je repoussai le registre.
Nous ne pouvons pas attendre. J'arrive de Toulouse spécialement pour le rencontrer. Prenez votre téléphone et dites à M. Veillu que l'inspecteur Cadin est en bas, qu'il veut le voir sur le champ. Il s'exécuta de mauvaise grâce et composa le numéro du directeur des affaires criminelles. Quand il reposa le combiné, il baissa la tête et prononça d'une voix étouffée. C'est impossible, M. Cadin. Essayez de revenir dans l'après-midi ou demain. Je décidai de passer outre. L'huissier tenta de s'interposer, mais je le repoussai sans ménagement. Les marches étaient recouvertes d'épais tapis. Nous progressions dans l'escalier sans faire le moindre bruit. Le claquement sec d'une détonation nous surprit au moment d'atteindre le deuxième étage où se trouvait le bureau de Veillu. Lardenne sortit son arme instantanément, tandis que mon premier réflexe avait été de plaquer Claudine au sol. Je dégainai à mon tour. Un second coup de feu retentit alors derrière la porte du bureau. Des flics en uniforme firent irruption sur le palier. Un court instant, ils crurent avoir affaire à un groupe de tueurs. Ils braquèrent leurs armes sur nous. Je levai les bras. « Nous sommes des collègues, je suis inspecteur Cadin de Toulouse. Ça tire chez le directeur. » Je désignai la pièce en remuant mon arme dont le canon était pointé en l'air. Deux policiers prirent position de part et d'autre de la porte. Ils s'apprêtaient à l'enfoncer, mais n'eurent pas à mettre leur projet à exécution car elle s'ouvrit, laissant le passage à un vieil homme au visage totalement défait, comme blessé intérieurement. Lardenne me toucha l'épaule. « Mais c'est le retraité de Montauban !» Les flics étaient restés immobiles, choqués par l'apparition de cette silhouette.